Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bon, alors, qui commence?
Qui commence quoi, à boire?
Non. Qui
on
commence
à boire, j'ai gagné.
Je propose qu'on fasse à la courte paille. Charline, prends les graissins.
Attends, je mélange les graissins.
Voilà. Chacun en tient.
Ok. Oh bah putain, et c'est encore
François.
Moi.
C'est François qui commence.
C'est toujours moi. Ça fait deux fois quoi.
Ça fait deux fois. Donc c'est pas non plus toujours, c'est un petit toujours quoi.
Salut les Fabriques Zouz.
Ah non.
C'est François.
Voilà, voilà. Ah, non.
C'est toi qui joue du pipo ?
Ouais, c'est moi. Et aujourd'hui, on reçoit Charline Vanhoenacker. Salut la patronne !
Bonjour à toutes et à tous !
Hein ?
Bonjour François !
Ah ouais, et il y a Ramzy aussi qui est là.
Ouais.
Mais c'est pas pour toi que tu me fais des signes ? Et il y a Juliette aussi, on l'a entendu, on l'a reconnu.
Ça a vraiment commencé là ?
Ouais, ça a commencé.
Ah, ok. Bien, bonjour François, bonjour Juliette, bonjour Ramzy, et merci de m'accueillir dans votre podcast.
Bah, c'est un plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire, Ravi ? T'es comme ça, tu fais renseigner.
Ouais, bah oui, parce qu'en fait, t'as pas donné le nom du podcast.
Non, mais
t'as pas dit quel épisode c'était. T'as vraiment tout fait de travers. Donc, okay, tu vas me refaire ça.
Je crois qu'il est impressionné parce que je suis la patronne d'habitude.
Ouais. Bah, donc, on va remettre le générique.
Donc, on va recommencer. On va remettre le générique.
Vous avez un peu de pression, j'espère.
Non.
Mais l'autre fois, j'avais dit tout ça ?
Oui.
Ouais.
Ah ouais, je me souviens même plus.
Allez, on y va.
La Fabrique avec Juliette Arnaud, Ramzy Assadi et François Audouin.
Vas-y,
épisode
Juliette.
2, invité
Charline Vanhoenacker.
Bonsoir.
Bonsoir Charline.
Bonsoir Charline.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, donc le podcast consacré à la création.
Qu'est-ce que je fous là alors? Oh merde,
bien fait, voilà.
J'ai failli renverser un verre déjà avec le fil.
Tourne la console.
Ouais.
Oui, on n'est pas dans les studios de Radio France, hein. C'est un petit studio.
Ça fait très longtemps que souvent dans nos conversations avec Ramzy et avec François aussi, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui créent et pas d'autres. On a des intuitions sur les raisons de ça. Et la dernière fois, justement, quand on interviewait Guillaume, on s'est rendu compte assez rapidement dans ce qu'il nous disait qu'en fait, il s'est senti autorisé par sa mère qui, un jour, lui a dit « Toi, t'es doué pour faire rire les autres. Tu devrais penser au théâtre. » Et donc, assez rapidement dans sa vie, il a eu...
Elle a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, du coup, sa mère.
En tout cas, elle a des vraies responsabilités. Et comme toi, tu as un parcours où tu as fait des études classiques.
Tu peux peut-être rappeler ton parcours, expliquer ton parcours Depuis l'université à peu près.
Ouais, à l'université, j'étais à Bruxelles et j'ai fait ce qu'on appelle philologie romane. Donc c'est l'étude des langues romanes, donc c'est les lettres plus une dimension linguistique, donc la dimension scientifique de la langue. C'est par exemple les spectres qui apparaissent quand on forme des... J'étais capable par exemple à l'époque de reconnaître un A, d'un O, d'un S sur un spectre. Et le spectre, si vous faites de la radio, vous faites de la radio, non,
non.
C'est ce qui apparaît dans le système d'enregistrement. Et ensuite, j'ai fait Sciences Po. J'ai fait une passerelle. Hein, c'est-à-dire que Sciences Po, j'ai ramené sur 2 ans. Donc, j'étais déjà un peu stacanoviste à l'époque.
Et quand tu as fait ça, tu avais un objectif
de, oui.
De profession, de métier.
Oui, j'ai su à 14 ans, j'ai su que je voulais être journaliste. J'ai su à 14 ans parce que je suis partie sur un vieux voilier avec la Fondation Nicolas Hulot en Bretagne. Oui, Nicolas Hulot fut mon héros. voilà, il faut brûler ses héros à un moment. Hein. Des fois,
ils s'en chargent tout seuls.
Ils s'en chargent tout seuls. Et donc, je savais que faire les lettres plus Sciences Po, c'était l'alliage parfait pour ensuite faire du journalisme.
D'accord.
Ouais. Je suis allée dans ma zone de confort pour les lettres. Je me suis dit, dans quelles études je peux arriver au bout. C'était mon seul souci, c'était d'arriver au bout des études.
Et donc, après Sciences Po, t'as intégré... Vas-y,
quand tu me disais à 14 ans, je veux être journaliste, tu voyais quoi? Tu te figurais quoi? T'imaginais quoi? Parce qu'à 14 ans, on sait pas... D'abord, ça peut être plein de choses, journaliste. Ouais. Et puis à 14 ans, dans la tête d'une petite fille de 14 ans, c'est comment, journaliste?
Je m'en souviens précisément parce que c'était une question que tout le monde me posait. Parce qu'à 14 ans, j'ai déjà fait des médias. Comme je revenais de ce qu'on appelle une mission découverte avec la Fondation Nicolas Hulot, j'étais allée donc dans des zones où ça bastonne quand même, c'est Ouessant, Molène, tout ça. Hein, c'est vraiment les vrais marins purs de dur qui vont là d'habitude sur un vieux voilier classé monument historique. Donc j'ai découvert, j'ai fréquenté à ce moment-là les plus grands scientifiques locaux. Donc j'ai vu des phoques, des dauphins, j'ai observé les oiseaux, l'estran, donc c'est cette partie de la mer qui se retire, où la mer se retire, où il y a toutes les algues, où il y a une vie pas possible, avec des trucs, il y a des espèces de... Il y a une biodiversité, t'as des trucs fluo, tu sais même pas ce que c'est, et puis on te l'explique. Et donc en revenant, la condition sine qua non, c'était de médiatiser mon expérience, de raconter ce que j'avais vu. Donc j'ai écrit des articles dans des revues, j'ai fait des interviews à la radio, à la télévision locale. Et donc, on m'a posé cette question. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard et comment tu te projettes? Donc, j'ai la chance d'avoir à 14 ans une idée très, très précise. Je me souviens de ce que j'ai dit. Je me souviens avoir dit, je veux être journaliste, plutôt reporter, parce que je suis curieuse de tout, j'ai envie de rencontrer des gens et ça pourra être autant au bout du monde, parce que j'avais quand même beaucoup le goût de l'aventure, ça sera au bout du monde comme au coin de la rue. Donc, il faudrait que je fasse des reportages sociétaux sur vraiment ce qui se passe. Je mettais sur le même plan ce qui se passe vraiment au bout de ma rue et à l'autre bout du monde. Et je ne sais pas si c'est le hasard ou si je me suis auto-amenée à ça, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des reportages dans ma rue et j'ai fait des reportages en Haïti, en Afrique ou aux États-Unis.
Ça ne peut pas être le hasard, Michette.
Non, je me suis un peu conditionnée, probablement.
Bah,
je me suis dit, à 14 ans, je l'ai dit à la radio, à la télé, je l'ai écrit. Si maintenant, je ne le fais pas, j'ai l'air d'une andouille. Il va falloir y aller.
Après Sciences Po, tu as fait une école de journalisme.
Oui, à Paris, là. Là, j'ai pris le train, je suis arrivée à Paris et j'ai fait journalisme.
D'accord, ok.
Alors, j'ai peut-être pas bien tout compris.
J'adore. C'est un personnage ou c'est vrai?
Non. Mais
si c'est un personnage, j'adore l'idée. Il y a un concept radio.
Un personnage qui commence par...
Blair aussi.
Non, mais quand tu le verbalises, est-ce que... là, tu le sais que tu veux faire ça.
Oui.
Mais qu'est-ce qui fait que vraiment, ça se déclenche en toi, l'idée de faire ce métier-là, même si c'est pas... Tu vois, ça peut ne pas être flou à un moment. Tu te dis, tiens, il y a ça qui m'attire. C'était peut-être pas aussi précis. Mais qu'est-ce qui fait que ça, tu veux aller vers ça?
Je pense que... Je pense que c'est vraiment l'émission de Nicolas Hulot, Ushuaïa, qui m'a éduquée et à l'environnement et à raconter ce qu'on voit et à alerter sur... Il y a alerté sur les périls de la nature, etc.
Moi, j'ai pas trop de souvenirs de Ushuaïa, mais c'était pas des documentaires animaliers?
Non, y a, ça, l'émission a beaucoup évolué, mais au début, c'était surtout des trucs un peu extrêmes. Je me souviens, moi, j'adorais regarder parce qu'il y avait.
C'est par ça qu'il m'a chopé, m'a pécho. Ouais. Mais c'est figuré, hein, parce qu'on parle de Nicolas.
Non, mais ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que Charline, elle est attirée par les choses.
Ah oui, moi, j'avais le goût.
Alors, dites-moi, c'est quoi les choses extrêmes?
Par exemple, ce que faisait Nicolas Hulot, à un moment, il faisait du ski nautique, mais sans les skis, avec les pieds. Sur un lac, tu vois. Ou alors, il faisait de l'ULM.
Ouais. Oui, c'est ça. Mais alors,
du saut de montgolfière, des choses.
Au départ, Nicolas Hulot, c'est un journaliste. Il a travaillé pour l'agence Kappa, il a été photographe, il est allé sur des terrains de guerre.
Sur Ushuaïa, c'était pas. Il était même sur France Inter.
Alors, au début.
Parce que là, c'est Martine à la plage, machin. Ouais. C'est, Nicolas fait de l'ULM, Nicolas fait.
Non, au début, c'est même un mec. C'était un mec qui faisait le. Au début, Nicolas Hulot, je crois qu'il faisait l'enduro du Touquet et tout ça. C'était un fou de moteur et tout.
Sur France Inter, il a commencé, il faisait la moto. Il était fou de moto, il faisait la chronique moto.
Mais moi, c'est comme
ça qu'il est. Pas du tout écolo.
Mais je parle de Ushuaïa.
Oui, mais du coup, après.
Ça a évolué.
Ça a été par ce prisme-là. Et petit à petit, à force de faire le tour du monde pour faire des sauts, des trucs de glisse, de machins extrêmes, des sauts dans les canyons, des trucs, il s'est rendu compte, je pense, que de l'état de la planète et des règlements. Et en fait, ça a viré petit à petit de plus en plus écolo. En fait,
voilà, exactement. C'est au départ d'un espèce de trip d'un super-héros qui teste des tas de choses.
Ouais.
Il a eu une prise de conscience et puis il en a fait
un
des documents.
C'est pas tant Nicolas Hulot que je remets en question. Là,
oui, c'est le journalisme.
Je considérais que c'était du journalisme.
Ouais,
comme si je regarde Jackass et je me dis, ah putain. Je vais être journaliste.
Et c'était peut-être le moment quand c'est devenu un peu écolo.
Non, parce que le journalisme, c'est donner à voir et à expliquer.
Mais c'est pas faire des trucs extrêmes.
Non, mais c'est pas la partie extrême qui m'avait. C'est par la partie extrême qu'il est venu me chercher.
Ouais.
Parce que je trouvais ça attirant, un mec qui faisait des trucs extrêmes dans des beaux décors. Et voilà, j'étais amoureuse de Nicolas Hulot. Hein, c'est comme
ça y est, on a les infos.
Et voilà. Et puis, quand il a. C'est comme si je l'avais accompagné dans son changement. Et après, il a vraiment viré vers un. C'est plutôt du documentaire, je dirais, mais le documentaire est une forme de journalisme.
Oui, okay.
Et puis, je pense que le goût de l'avant. Enfin, j'ai sans doute fait un amalgame. Franchement, ça part sans doute d'amalgame. De se dire, le journalisme au bout du monde, mais aussi dans la rue, c'est une aventure, en fait.
Pour toi, à ce moment-là, 15 ans, tu disais que le journalisme était accessible pour toi ? C'était quelque chose de possible ? Parce que tu viens pas non plus d'une famille de journalistes ou de. Aucun moment tu t'es dit qu'il y avait une barrière, un truc.
J'aurais pas pensé que c'était pour moi si j'avais pas rempli ce dossier de candidature, parce qu'il fallait remplir un dossier de candidature pour participer à ce voyage.
Et toujours le truc.
Nicolas Hulot, il a fallu que mon dossier soit sélectionné.
Ah, c'est ça qui t'a fait comprendre que
c'était
possible.
L'autorisation.
J'ai participé.
Non, le fait,
non,
qu'on,
le fait
on
que
t'accepte
tu t'autorises toi-même.
Je me sentais légitime pour le faire parce que j'ai été sélectionnée sur dossier. C'est pas tombé de l'arbre.
T'as pas
j'ai
su pas été Hulot. On la comprend celle-là.
Voilà, c'est ça. J'ai su ces personnes pour l'avoir. Tout ça. Bah, oui, c'est sûr. Donc je me suis autorisée. Je me suis autorisée à rêver. Enfin, c'est vrai que c'est fou. En fait, je viens d'un milieu qui n'a rien à voir.
Oui, c'est ça.
D'une zone sidérurgique où il se passe rien, etc. Même culturellement, il se passe 2-3 trucs, mais c'est pas fou. Et
en Belgique, hein, je rappelle.
Et voilà. Et par le truchement de la télévision, j'entends il y a appel à candidature. Et en fait, quand j'entends appel à candidature, je me dis s'il faut remettre un dossier. Y a un truc un peu égalitaire, j'ai mes chances. Je me suis débinée, marrant, mais pour faire mon dossier, j'avais le dossier le plus blindasse de tous les candidats, de tous les voyages de la
France. Il y avait quoi dans le dossier, mais...
Je pense que j'avais démarché démarché tous les médias avant, ce que les autres n'ont pas fait, en leur demandant de me signer une attestation pour me dire si jamais j'arrive à faire ça, est-ce que vous m'ouvrez un micro, est-ce que vous m'ouvrez vos colonnes.
Waouh.
Et donc, j'avais un dossier, mais j'avais 15 médias qui disaient, telle radio, on accueille Charline si vous la sélectionnez pour ce... J'avais fait ça. Donc, je m'étais débinée, mais comme jamais.
Débinée, alors parce que...
Je m'étais...
Nous, c'est inverse.
Un belgicisme.
Je m'étais nous, défoncée vraiment... pour y arriver.
Nous, débinée, c'est l'inverse.
Ah, pardon, ouais. Donc, je m'étais défoncée pour y arriver.
Ah oui, c'est vrai.
Et donc c'était absolument improbable qu'une gamine comme moi, de là où je venais, avait accès à ça. C'était fou. Déjà, je me souviens, c'était début juillet en 92, il me semble. Et mes parents me réveillent en pleine nuit pour démarrer vers Paris en voiture parce que en France, il y a le permis à points. Qui doit être instauré et où les Français manifestent. Et il y a des opérations escargots sur toutes les autoroutes, mais un truc comme il n'y a plus jamais eu. Et donc, je risque de rater le train à la gare Montparnasse pour Brest. Et mes parents me réveillent en pleine nuit en disant, écoute, on va partir beaucoup plus tôt. Donc, on est parti en pleine nuit, en bagnole. Et
vous
je me rappelle,
des éléments contre toi, quoi,
à 14 ans, mes parents me déposent sur le quai de la gare à 7h du matin à Montparnasse. Et je vais partir seule avec des gens que je ne connais pas. Et je vais embarquer sur un bateau pendant 15 jours, là où ça bastonne, à Ouessant, Molène et tout. Et je dis au revoir à mes parents sur le quai et je pars. Et là, je me dis, bah, meuf, tu l'as voulu, hein, tu t'es défoncée comme jamais pour avoir le meilleur dossier, tu l'as eu, bah, voilà, t'y es. Voilà. Et puis mon autre souvenir, c'est d'être dans le TGV en me disant, mais qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais et tout. Et là, je sympathise avec les gens avec qui je vais partir, qui ont plus ou moins mon âge, mais je crois que je suis la plus jeune. Et je me souviens que les Français me disent « Mais vous avez la télé en Belgique ?» Et là, je fais « Wow, on va partir de loin, là. » Là, je vais vraiment passer 15 jours sur un rafio avec ces gens-là. Et non, c'est une expérience mais absolument fondatrice dans ma vie, mais d'une force pas possible, quoi. Déjà, de l'avoir obtenu, c'est
ça. En fait, c'est le fait de l'avoir obtenu. Après, tu t'es dit « Ben, l'école de journalisme, tout ça, c'est possible, en fait, finalement.
Pas tant. Rien n'était forcément acquis parce que j'avais eu ça.
Non, pas forcément acquis, mais possible.
Mais oui, tout est possible.
Non, c'est pas la même chose.
C'est vrai. Oui, 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 ce sera. Je l'aurais peut-être pas. Il y a une chance sur un millier, mais je vais le tenter. Voilà, ouais.
Puisque une fois, ça a réussi.
T'as gagné une fois au loto, tu peux gagner une deuxième fois.
Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais, c'est presque ça.
J'aime pas beaucoup ce parallèle.
Non, mais dans. Sur un dossier, sur un concours, il y a une partie, même si c'est du travail en réalité, tout ça, mais il y a
mais
une partie quand même.
C'est exactement ça. Hasardeuse. Mais s'il n'y avait pas du travail, j'y crois pas. Enfin, par exemple, je ne crois pas une seconde, puisque on me propose de. N'importe qui peut me proposer de jouer à une tombola, je ferai, c'est bon, je ne vais pas perdre mon temps, c'est pas la peine. Tu sais, le truc où tu peux gagner, ça ne m'intéresse pas en fait. Mm. Le truc où tu peux gagner comme ça, tout le monde peut. Voilà, il n'y a pas d'effort, hein, tu peux gagner, ça ne m'intéresse pas. En revanche, s'il y a un challenge.
Ça te vertu travail, hein.
Ouais. Mmh. S'il y a un challenge, là, ça m'intéresse.
Ouais.
Ah oui, parce que quoi, le côté compétitif de Charlie,
attention, elle me connaît bien.
Ah oui, ça on en parle.
Ah, c'est surtout qu'elle a joué au ping-pong avec elle cet été, donc maintenant elle sait.
Moi, j'avais une petite question quand même. Parce que tu quittes, comment te vient l'idée de dire...
T'es là pour poser des questions.
Je quitte mes parents.
Oui. Je quitte mes parents. Non, mais comment te vient l'idée de te dire, OK, pour avoir un dossier béton, je vais appeler tous les médias pour qu'ils... Enfin, c'est de la stratégie, en fait.
Ouais.
Enfin, moi, c'est un truc auquel
je vous dis qu'elle est compétitrice.
Non, mais quel enfant de 14 ans dit... Oh là, je vais appeler tous les médias, je vais dire, hey, si je suis chez Nicolas, ça va être cool pour ton journal, là. Tu vas avoir une belle interview. Ça va parler de Nicolas Hulot.
C'était pas ça va parler de Nicolas Hulot. C'était vraiment... Il y a un truc de fou, c'est ce bateau. Ce bateau, c'est un monument historique. Il a une histoire. C'est un vieux gréement en bois.
Là, c'est comment elle l'a vendu à chaque média là.
Bah peut-être, hein, je sais pas.
Mais le pire, c'est qu'il
peut-être. Oui, c'est sûr que le côté, c'est sûr que le côté Nicolas Hulot a joué. Oui, il doit y avoir un peu de ça, mais ça n'était pas que ça.
Mais il y a une stratégie de pour réussir. Tu dis, ok, je vais essayer d'avoir un truc. Plus original que les autres.
Oui,
et puis pragmatique surtout, les gars. Oui, c'est-à-dire qu'elle fait peser le fait qu'elle est déjà, qu'elle a peut-être 14 ans, mais qu'elle vole ce qui peut arriver et les suites que ça aura.
Je comprends que puisque la finalité, on nous dit la finalité, ce sera ça. Je me suis dit, autant me vendre sur la finalité, en fait. J'ai une longueur d'avance sur les autres, quoi. Mm.
Ouais, puis c'est travailler, quoi. C'est juste, en fait, étudier le truc.
Je me rends compte que dans...
Comme t'avais peu de chance, t'as travaillé le truc à mort et cherché la meilleure stratégie pour le faire, quoi.
Ouais, et après, il y a peut-être un trait de caractère chez moi qui fait que, comme j'ai toujours la sensation que je pourrais pas passer par la porte, j'anticipe déjà de devoir passer par la fenêtre.
Ouais, c'est ça, mais c'est marrant.
Je pense que de là où je viens, les portes s'ouvrent pas. De là où je viens,
il n'y a pas de porte.
Déjà, l'accès aux portes.
Non, il n'y a pas de porte.
Non, mais de là où je viens, avoir accès à la porte, sonner ou frapper, c'est déjà.
Ouais,
voilà.
Bah ouais.
Elles ne s'ouvriront pas. Donc,
mais d'ailleurs,
donc, j'anticipe de rentrer par la fenêtre. Ouais.
Mais d'ailleurs, tu es passé par la porte du journalisme pour entrer par la fenêtre de l'humour.
Ouais, c'est pas fait exprès, mais. Parce que oui. Je voulais vraiment faire ma carrière de journaliste.
Oui, mais c'est là qu'il y a
un. C'est une carrière contrariée, l'humour.
Alors,
hein.
Mais c'est pour la. C'est
oui
ça.
Et non, vu ton parcours, mais vas-y, Juliette.
Mais c'est le point mystérieux pour moi.
Ouais.
C'est comment tu passes de journaliste, surtout, et que ça devient de loin en plus.
Ouais.
Donc. Ah, tout à coup, tu te dis, mais attends, en fait, l'humour, ça me fait plus rire.
Ouais.
C'est brillant, ça.
Bah, en partie par dépit, parce que l'histoire, c'est que je me projetais vraiment. Je connaissais pas Florence Aubenas à l'époque. Ce qui est marrant, c'est que dans ma carrière de journaliste, j'ai couvert sa libération, mais de très près, hein, c'est-à-dire son arrivée à l'aéroport, la conférence de presse qu'elle a donnée derrière, revoir une semaine après, lui poser des questions, etc. Mais Florence Aubenas, elle fait ça, elle fait le bout du monde et le coin de la rue.
Ouais.
Elle passe un été dans un camping et elle va partir en Ukraine.
Ouais.
Aujourd'hui, je dis Florence Aubenas, mais je n'avais pas de modèle féminin à l'époque, ni même forcément de modèle masculin là-dessus. Mais c'était comme ça que je me projetais. C'était ça que je voulais. J'ai réussi à mettre les pieds dans le plus grand journal belge, qui est Le Soir de Bruxelles. J'ai fait beaucoup le coin de la rue. Et à un moment, je voulais faire le bout du monde. Et j'y arrivais pas parce que j'étais trop jeune, on me laissait pas faire. T'as toujours les journalistes, les vieux briscards, qui connaissent, tu vois, je vais t'expliquer la vie, et puis qui te laissent jamais ta chance. Et donc, à un moment, j'ai décidé de me la donner, moi. Donc, je trouvais les moyens de partir en Haïti, de partir aux États-Unis, de partir en Afrique et de ramener mes propres reportages, en fait.
Comment tu faisais ça?
Je passais par la fenêtre, encore une fois. Par exemple, Haïti, c'est tout con, mais pour le journal Le Soir, je travaillais notamment pour la page média. Mm-hmm. Et souvent, pour faire la promo de leurs émissions, les chaînes de télé invitent un journaliste ou l'autre à les suivre sur le terrain et à faire. En fait, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. On invite un journaliste pour faire un reportage sur le documentaire qu'on est en train de tourner pour notre soirée spéciale, par exemple.
D'accord.
Donc, moi, ça me gavait un peu parce que je voyais bien le serpent qui se mordait la queue. Mais j'y allais quand même, je faisais le taf, j'accompagnais tout le monde et je ramenais un article sur le documentaire en train de se tourner ou l'émission en train de se tourner. Et je profitais de les accompagner donc, du billet d'avion. Pour dire moi je reste sur place en fait, donc je vais changer mon billet de retour et je vais rester sur place chez l'habitant et je vais rester une semaine de plus et je vais pas faire juste un aller-retour pour couvrir votre documentaire 3 jours et puis rentrer. Non, je suis en Haïti, j'ai mis le pied dans la porte. La porte, elle est calée maintenant. C'est bon, j'y vais. Enfin, là, pour le coup, tu vois, il y a l'expression je cale le pied dans la porte. Moi, je cale le pied dans la fenêtre. Ce qui est quand même plus acrobatique. Faut quand même, voilà.
Ah, parce qu'il faut l'échelle.
Je trouve à rester et à ramener des reportages. Et voilà. Et malgré tout ça,
Tu ramènes des reportages, ça veut dire quoi? Tu fais des reportages, tu fais des articles, toi,
ouais.
Et tu les vends ensuite.
Ouais. Soir, je suis journaliste chez eux, donc si l'angle est bon et que le sujet est bon, ils vont me le prendre. Et après, ça m'est arrivé. Une fois, j'ai publié dans le Figaro. C'est le seul journal qui a. Il y avait M Le Monde qui était en concurrence avec le Figaro. M Le Monde a eu du mal à me répondre et je suis allée au Figaro. C'était d'accord, au Plus de France. Okay. C'était pendant l'été, généralement, c'est la chance du journaliste. Et ça, c'était un reportage aux États-Unis dans la communauté cubaine quand Obama avait levé les sanctions sur le transfert d'argent, etc. Donc, je rentre. Enfin, je fais tout ça, je me démène et je suis frustrée parce qu'on me laisse pas, on me fait pas confiance comme journaliste au long cours. Et enfin, si je pense qu'on me fait confiance parce que j'ai fait mes preuves, j'ai ramené plusieurs reportages du bout du monde et j'y suis arrivée, et voilà, ou même du coin de la rue ou même de Paris. Hein. Mais voilà, il y a un système qui fait que c'est bouché. On me dit non, mais tu travailles bien, on est super content de ton travail, on voit que t'as du potentiel. Mais la place, elle est prise, quoi. Et c'est vrai que moins la presse, elle a d'argent et tout, plus les journalistes qui ont la chance de pouvoir partir, c'est préempté, quoi. Ils sont déjà dans la place. Il faut pousser quelqu'un dans l'escalier, quoi. Et donc...
Je suis assez d'accord avec cette méthode.
Deuxième stratégie.
Le meurtre.
Et un jour, j'ai dû choisir. On m'a dit, voilà, il y a un poste qui s'est libéré. Tu peux partir à New York. C'était notre correspondante à New York. Wow. Moi, je fais « Waouh, ok, quelles sont les conditions ?» Et là, on m'a dit « Ah, bah, par contre, t'es pigiste et tu seras payé au même tarif que les piges si t'étais à Bruxelles. » Je fais « Attendez, la vie à New York, c'est dingue. » Et donc, en fait, je me suis rendu compte que financièrement, c'était pas possible et puis que ça allait être très, très difficile et que j'allais morfler. Donc, j'ai dit « Ok, bah, la stratégie, c'est que je vais rester à Paris. » Et donc, je vais faire un truc que j'aime bien, qui est la politique française. Et donc, un peu par dépit, bah, je m'occupe des médias en France parce que c'est ça qui fait bouffer, parce que tu fais plein de piges. Je fais la politique française, je fais quelques reportages dans la communauté rome, des choses comme ça, qui sont passionnants par ailleurs, hein, mais ça n'arrive pas souvent malheureusement. Et puis, à un moment, je dis « Ok, bah, quitte à faire ça, franchement, quitte à faire je sais pas, 50% de politique française où je m'emmerde et c'est un personnage, c'est du théâtre. J'ai presque envie de faire des blagues, moi, et de rigoler. Puis c'est comme ça que j'ai glissé. C'est comme ça, je me suis dit, la politique française, elle est tellement caricaturale que moi, quitte à faire ça, autant me marrer. Et je dirais plus de choses si je prends la grammaire de l'humour que si je dois rester de façon orthodoxe en disant « Oui, aujourd'hui, François Bayrou a posé sa candidature. » J'avais presque envie de rire quand je faisais mes papiers. « Oui, François Bayrou est candidat à l'élection présidentielle. T'as presque envie de te marrer. » Donc je me suis dit « Pourquoi finalement je me marrerais pas explicitement ?» Et c'est comme ça que j'ai basculé vers l'humour. Mais ça, l'humour, c'était pas du tout calculé. Alors que quand j'étais gamine, j'aimais bien faire rire les autres, que j'achetais Charlie Hebdo, Le Canard Enchaîné, que je faisais des caricatures de Lionel Jospin en dessin quand j'étais ado et tout ça. Mais d'en faire mon métier, jamais, jamais ça me serait passé par l'idée, en fait.
Ouais, une petite Belge à la Louvière qui fait des caricatures de dessin de Lionel Jospin. Qui fait ça?
D'ailleurs, en fait, je ne sais pas si je devrais le dire ici, parce que du coup, je dévoile... Non, je dévoile mon coup d'après. Je ne vais pas dévoiler mon coup d'après, je suis stratège, j'avais oublié.
Oh là là, le teasing.
On est passé à ça, ça d'un scoop.
Ouais. Vous êtes passé à ça d'un scoop sur mon coup d'après.
Et rien. Son coup d'après, là, regarde, il y a eu une demi-seconde où elle aurait pu...
la biographie de Lionel Jospin.
Non, je suis trop stratège que pour dévoiler.
Et c'est elle qui la dessine. Eh ben moi ça.
Alors, vas-y Juliette.
Ben rien.
Si.
Je vais faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire à la radio. Je vais dire, ça me laisse un peu sur le cul ce que tu viens de dire. Que ce soit aussi d'une certaine manière. Toi, tu dis, t'as commencé en disant en fait, je suis arrivée à l'humour par dépit.
Ouais.
Et
ah ouais.
Pour moi, c'est une formule que tu racontes maintenant rétrospectivement, mais je trouve ça passionnant.
Par accident presque même.
Non, c'est pas un accident, c'est un dérapage contrôlé. C'est les moments dans la vie où tu arrives à lier les choses que t'aimes, tu sais, où tu arrives à faire un peu.
Non, mais en réalité...
Parce que là, tu viens de dire que quand t'étais gosse, t'aimais faire rire les gens.
C'est ça. Parce qu'en réalité, même si t'avais été correspondante à New York, tu t'aurais caricaturé les journalistes là-bas et t'aurais fait en fait eu le même cheminement, ouais. Mais ailleurs. Je pense qu'en réalité, c'était en toi depuis toujours. Et c'est pas
il y a nécessité
accident,
à l'âge adulte de faire des ponts entre les choses qu'on aime. Enfin, une vie un peu accomplie, c'est ça. C'est quand tu arrives à relier les choses que tu aimes.
Quand je dis par dépit, il y a un fonctionnement chez moi qui est récurrent. C'est que si je ne peux pas être la numéro 1, je préfère être la dernière. J'aime pas être moyenne. Soit je suis number 1.
Je vous ai dit que j'avais joué au ping-pong avec elle.
Soit je porte le maillot numéro 10, ok? Tu vois ça?
Karim Benzema. Ouais.
Voilà. Numéro 10, j'explique ça à Magadji.
Mbappé.
Soit,
donc c'est un podcast capitaliste, hein, n'oubliez pas. Soyez numéro 1, si vous n'êtes pas numéro 1.
Soit je suis la meilleure, et en fait, si je vois que je ne peux pas être la meilleure, je fais ok, ah bah très bien, bah, donc je serai la dernière et je vais troller en fait. Je vais troller le truc qui m'a...
Je me mets au dernier rang de la classe.
Ouais, je troll le truc qui ne me permet pas d'être première. C'est une petite astuce que je vous donne. C'est exactement ce que j'ai fait dans ma vie, hein, en fait.
Et ça s'est matérialisé comment, en fait?
Déjà, il a fallu que quelqu'un me dise que...
T'étais drôle.
Ouais, il y a quelqu'un qui
m'a... Donc ça, c'est la deuxième autorisation.
Ah, oui.
Qui t'a dit que t'étais drôle?
Alors, Eh bien, dans le... bureau de correspondant du soir et de la RTBF, les deux médias pour lesquels je travaillais. Il y avait aussi la RTS, la radio-télévision suisse, et un réalisateur qui s'appelle Alex Lemierre, qui était en régie quand je faisais mes duplex, donc mes trucs tout à fait sérieux et orthodoxes de journaliste. Hein. Et un jour, je reviens de la salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale, il me dit « Mais Charline, là, en fait, je t'entends me raconter ce que tu as vécu. Je t'entends me raconter en tant que pote... Voilà, j'ai droit à une espèce de reportage privé sur le ton de l'humour. Et puis, je t'entends le faire au micro de façon très sérieuse à la RTBF. Il dit, mais tu devrais raconter comme tu me racontes à moi. Mais t'es fou, je suis journaliste, je peux pas. Enfin, nous, dans les écoles de journalisme, on nous apprend subjectivité, orthodoxie, les règles, etc. Donc, tu peux pas dévier. Mmh. Tu peux pas être créatif en journalisme. C'est-à-dire que dès qu'en journalisme, tu fais preuve, en tout cas à l'époque, maintenant ça change un peu parce que le journalisme était un truc un peu éclaté, mais quand j'ai fait mes études de journalisme et quand j'ai débuté, c'était quelque chose d'extrêmement codifié sur les rails. Tu peux... bah, donc, toute sur, créativité...
Sur les on l'entend sur les voix off des reportages.
Oui, voilà, c'est ça.
Avec la caricature de Groland.
C'est pour ça qu'on peut laisser un G.
Non.
C'est ça. Et donc, la créativité, elle n'est pas autorisée chez le journaliste. Donc, c'est lui qui m'a un peu foutu un coup de pied au cul.
Et toi, tu n'aimes pas trop qu'on te dise non, en plus, comme être humain.
C'est probable, oui. À quel humain qui aime bien qu'on lui dise non? Non, tu le feras pas. Ah, oh, super, je suis ravie.
Non, mais il y a personne qui aime qu'on lui dise non, mais il y a plein de gens qui
acceptent.
Oui, qui acceptent. Dans un sens, j'aime bien qu'on me dise non, comme ça, j'essaye quand même.
Oui, c'est ça.
Mais.
Ça se fait pas de se moquer de la direction. Ah, je vais quand même moquer de la direction.
Ouais, je pense que dans cette équipe, je pense que c'est un point qu'on a en commun. Et oui, donc il a fallu que quelqu'un me dise la manière dont tu le racontes comme ça est très intéressante et très marrante, tu devrais le faire. Et donc on a fait une maquette et la RTBF a accepté que j'ai cette double casquette, que je reste la journaliste tout à fait orthodoxe.
Tu pouvais avoir les deux.
Ouais. C'est-à-dire que je faisais toujours du reportage, j'étais dans les débats, et voilà. Et le vendredi, il m'autorisait un petit pétage de câble, c'était un carnet de campagne. Et pendant la campagne présidentielle, le vendredi matin, dans la matinale, j'avais une chronique. Où c'était balisé, il y avait un petit jingle et c'était là, Cherline se lâche un peu et elle vous raconte, elle que vous entendez, qui est notre correspondante officielle à Paris, qui vous raconte la vie politique française tous les jours du matin au soir, le vendredi matin elle s'autorise un pas de côté et elle fait des conneries. Et
comment t'as appréhendé toi ce truc là de faire qui était prévu et codifié et
j'ai simplement fait, je pense que je suis allée vers mon penchant naturel parce que souvent quand j'écrivais des articles dans le journal ou que je faisais des reportages radio, je devais un petit peu freiner ma plume.
D'accord, okay.
Je me souviens que la correspondante qui était numéro 1 du poste avec qui je travaillais m'avait déjà dit une ou deux fois, quand t'écris il y a des passages drôles. Tu mets parce qu'en journalisme, il faut une accroche. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut soigner son entrée dans l'article. Il faut une accroche pour au moins accrocher le lecteur les 5 premières lignes. Et puis, il faut une chute. Donc, dans le fond, c'est des techniques de l'humour aussi. Et dans l'accroche, j'avais tendance à y aller un peu trop humour. Et elle me disait, fais attention parce que faut pas que ce soit trop humour non plus. Donc, je savais que je réfrénais ma plume, que... Et donc là, j'allais vers mon penchant naturel. Et je suis persuadée que l'humour politique, il permet d'approcher, tout en tordant le fait, il permet d'approcher davantage la réalité, la cuisine des faits. Tu vois, le journalisme politique, il essaye toujours d'aller dans la cuisine, il essaye d'avoir des off et tout. Eh ben, il existe aussi des arrière-cuisines et je pense que l'humour va dans l'arrière-cuisine, dans ce qui est un peu plus peut-être sale ou emmerdant et qui fait partie du truc et que parfois il faut savoir.
Du coup, en faisant en révélant ces choses-là, est-ce que tu avais du mal à faire tes vrais reportages le reste de la semaine? Parce que ça te mettait des barrières?
J'arrivais à faire la part des choses entre les deux. Je savais qu'il y avait l'effet, le factuel dans mon métier de journaliste. Et quand j'écrivais ma chronique humoristique, là, je pouvais me lâcher. C'était absolument scindé.
Mais je pense qu'aujourd'hui, c'était une gymnastique simple pour toi?
Ah oui, c'était naturel. Ouais, parce que j'ai quand même fait quelques longues années de journalisme pur et dur à haute dose avant de m'autoriser de déconner.
Et puis, t'as pas de...
J'ai fait sans doute 10 ans. 10 ans de... Il y a au moins 10 ans de journalisme pur et orthodoxe avant de déconner.
T'as ni mépris ni dégoût pour le journalisme.
Tout à l'heure,
tu nous disais que t'avais une grande admiration, par exemple, pour le travail de Florence Aubenas.
Plein de journalistes. J'ai pas de rancœur vis-à-vis du métier, pas du tout. D'ailleurs, j'espère y retourner un jour. Peut-être qu'il faudrait que je retourne sous pseudo. Parce que, vu la façon dont je suis partie dans le
journalisme... Tu vas nous faire une Romain Gary.
Non, mais dans le journalisme, c'est pas... J'ai déjà eu un pseudo, d'ailleurs, parce qu'en fait, quand t'es pigiste, tu gagnes très, très mal ta vie. Et j'avais... Il y avait un autre journal qui commençait à me solliciter. Et moi, comme j'arrivais pas à vivre avec un seul journal, il fallait que j'écrive dans un autre. Mmh. Et j'avais pas fait le coup en loose day. Hein. J'avais prévenu mon journal principal qu'il y en avait un autre, qui était un journal régional. Donc, ils n'étaient pas sur le même créneau qui me sollicitait. Et donc, j'ai été transparente. Ils m'ont dit oui, ok, mais il faut que tu fasses sur pseudo parce que j'ai dit ok. Et donc, j'ai pris le nom de mon arrière-grand-mère qui était très chic, qui s'appelait Charlotte Champagne. Oh. Et j'ai écrit dans la presse régionale, je m'appelais Charlotte Champagne.
Chacha.
Ouais.
Chacha même.
Ouais, voilà.
Et quand tu bascules comme ça du journaliste dit classique, entre guillemets, à la chronique humour, il y a un déclic, il y a un truc qui dit « Ah ouais, c'est quand même plus sympa de faire ça. » Ou tu prenais autant de plaisir ou est-ce que tu te délestes petit à petit de cette forme du journaliste plus classique pour dire...
c'est dur de trouver des trucs rigolos chaque semaine, peut-être.
Bah ça met le doigt sur une question intéressante, je trouve, parce que à la fois, il y a une impression de facilité parce que tu peux faire ce que tu veux et t'es libre et tu te lâches. Donc, il peut y avoir cette impression-là que c'est facile.
Et puis, il y aura le vertige.
Ouais, exactement. Mais intervient aussi la partie création qui, je pense, maintenant avec le recul, le fait qu'il y ait une partie création, t'as les pieds dans le vide. C'est beaucoup plus vertigineux. Quand je repense à ma carrière de journaliste pure et dure, si tu travailles et qu'il y a un bon travail préparatoire, tu vas ramener l'info ou tu vas ramener quelque chose. Moi, je m'étais dit, si je pars en Haïti et que j'avais prévu de rencontrer des gens, j'avais travaillé avant, et je me dis, si j'arrive pas à les croiser, si j'arrive pas, allez, au moins j'aurais vu des choses. Il y a notamment un reportage de Jean-Claude Guibaud dans Le Monde il y a des années et des années, où il est je crois que c'est à Bombay. Et tout le reportage, c'est qu'il a passé 5 heures sur 100 mètres de trottoir à Bombay. Et comme moi, j'avais lu ça, je m'étais dit, où que j'aille, au coin de la rue ou au bout du monde, si j'arrive pas à ramener le reportage qu'on m'a commandé ou si j'arrive pas à... si je me pose 5 heures sur un bout de trottoir, je vais ramener des choses. Donc, tu as toujours... je ne dis pas que le journalisme est plus facile. Parce que, après, quand tu es dans une grande rédaction, il y a aussi la concurrence d'autres médias qui ont ramené cette info. Il faut au moins aller chercher un scoop, une exclusivité. Il faut avoir. Mais faut bien le raconter. Donc, c'est quand même pas facile. Mais là où je dirais qu'il y a une forme d'assurance, c'est que tu vas ramener quelque chose à raconter, que tu auras quelque chose à raconter. Déjà, quand tu pars en vacances, tu avais des diapos, des photos, tu racontais tes vacances. T'as un truc à raconter.
Parfois, t'as des MST.
Voilà, c'est une autre forme d'expérience. Et t'as rencontré des gens. Quand il y a un volet créatif, non seulement tu dois raconter une histoire, mais en plus, tu dois la raconter différemment des autres et avec une forme de grain de folie, et tu dois faire rire. Mmh. Donc là, il y a deux écueils. Il y a la partie créativité, je dois faire une fiction alternative, donc je dois le raconter autrement. Donc déjà, il faut être original. Donc déjà, c'est une pression. Comment faire pour être original? Comment je peux y arriver? Est-ce que je serai inspirée? Et dans l'humour, en plus de l'originalité et de savoir écrire, il y a je dois déclencher un rire. Mmh. Donc il y a une forme de double pression. Donc, pour en revenir à ta question, les deux sont difficiles à divers égards. Parce que je veux ramener
surtout,
un truc...
toi, comment tu le vis? Parce que oui, je comprends la difficulté, mais toi, en disant, je caricature, c'est le journalisme classique, t'es un peu dans des chaussons, tu sais, t'as une assurance de quelque chose. Mais quand tu bascules sur l'humour, tu vois, t'emploies plein de termes de... c'est vertigineux, c'est un peu un saut dans le vide. Donc en fait,
les pieds dans le vide,
c'est un peu, c'est presque des notions presque de souffrance, c'est-à-dire que j'exagère.
Ouais.
Tu vois, t'avais un truc un peu plus confortable. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ok, même si ça va être dur, même si c'est un peu stressant, même si ça peut être compliqué chaque semaine, qu'est-ce qui te fait basculer dans ce truc-là? Est-ce que le plaisir est plus fort ou
Disons que on m'y a un petit peu poussé. C'est-à-dire que non, mais j'avais les pieds dans le vide et on m'a poussé dans le vide en fait. C'est-à-dire que j'avais un double profil, journaliste et qui pouvait faire rire. Et à un moment, donc j'ai commencé par faire des chroniques chez Pascal Clark sur France Inter. Mais j'étais toujours journaliste à l'époque.
Et tu faisais ta chronique
Je faisais une chronique
vendredi.
Une fois par semaine et j'étais toujours journaliste à la RTBF.
Faisais, non, mais tu faisais déjà ta chronique
humoristique
sur,
politique française.
Oui, au départ, je faisais une chronique sur la RTBF. Mmh. Après, cette chronique, je l'ai faite sur France Inter une fois par semaine. Et pendant ce temps, j'étais toujours journaliste à la RTBF.
Ah, okay.
Et ensuite, France Inter, mon double profil les a intéressés. Comme j'étais à moitié journaliste, à moitié rigolote, ils m'ont dit « la pré-matinale ». C'est fait pour ton profil parce que tu as un côté journaliste, donc il y a de l'info, c'est de la pré-matinale. Mais la pré-matinale, le 5-7, c'est plus détendu que le 7-9. On peut un peu plus déconner, donc tu peux y aller. Donc on m'a un peu poussé là-dessus. Et puis après, quand j'ai fait un an de 5-7, moi j'aurais re-signé pour le faire une deuxième fois, j'avais adoré. Mais on m'a dit, ta chronique que tu fais à la fin du 5-7, on va la mettre dans la matinale dans le 7-9 et puis on va te donner une émission. Et j'ai développé ce côté hybride.
Enfin, c'est marrant, à t'entendre, en fait, c'est pas toi qui décides.
Tu
as les pieds dans le vide, là, et on te pousse dans le vide, et après on te repousse dans le vide.
Mais c'était presque miraculeux, c'était génial, parce que c'était drôle. Ouais. Et c'était drôle, et le côté, quand je dis vertigineux, stressant, etc., avec la partie créative, c'est vrai que... Moi, en tant que journaliste, j'étais un peu dans ma zone de confort. C'est-à-dire que je savais que j'allais noircir ma page blanche, quoi qu'il arrive. Oui. Enfin, franchement, à part rater ton avion pour Ouagadougou, à part rater ton avion et rester en rade, t'arrives à l'aéroport de Ouagadougou, il y a déjà 4 milliards de choses à raconter.
Oui.
Et t'as ta rédaction au bout du fil qui te dit « Non, mais t'as 1500 signes. » « Quoi, 1500 signes ? Mais c'est une brève. » Je dirais qu'à l'aéroport, j'ai déjà vu des milliards de trucs. Et il y avait cette frustration-là aussi. Hein, et ça, c'est la frustration de tous les journalistes auxquels vous allez vous adresser. C'est pour ça qu'ils écrivent de plus en plus des bouquins. C'est parce que t'es au bout du monde, tu vois des choses incroyables et t'as ton rédacteur en chef qui dit « Ouais, mais j'ai pas la place parce qu'il y a Sarkozy qui est en train de divorcer, tu vois. »
Bon. Mais il y a ça aussi pour les chroniqueurs qui font des chroniques et qui veulent faire plus de 2030.
Il y avait cette frustration là aussi que j'ai résolue en passant à l'humour.
C'était un choix. Voilà.
Et donc,
pas juste
ça, tu sais que tu vas noircir la page. Et quand tu dois faire une chronique d'humour, tu peux raconter plein de choses. Je peux noircir une page avec le sujet que j'ai choisi. Mais si j'ai pas la moindre demi-idée de blague, je vais pas noircir ma page, alors que j'ai plein de choses à raconter. Hein. L'autre jour, je trouve un sujet sur Slate, sur les écoles taurines, où je me rends compte qu'il y a des gamins, ils apprennent la tauromachie dès 4 ans. Il y a un truc à raconter, sauf qu'il y a déjà été raconté par quelqu'un.
Ça date, c'était il y a un mois.
et donc, si moi, je veux le raconter, comme je ne l'ai pas fait moi-même, que je n'ai pas infiltré moi-même l'école, il faut que je le raconte avec des blagues. Et j'ai lu l'histoire, je peux la raconter, sauf que si je n'ai pas une demi-blague, ma page, elle va rester blanche. Et si ta page elle est blanche, tu remplis pas ton contrat, tu fais pas ton boulot, tu viens pas à l'antenne, donc c'est un stress.
Justement, sur cette idée de vide, Juliette, toi, quand tu t'es mise à faire des chroniques sur France Inter, déjà comment ça s'est passé? Comment tu t'es mise? Enfin, c'est Charline qui t'a recrutée pour faire des chroniques?
Oui, c'est Charline qui m'a recrutée.
Est-ce que tu avais déjà fait des chroniques avant?
Oui, j'avais déjà fait des chroniques sur RTL.
Des chroniques littéraires aussi?
Non, pas du tout.
D'accord. C'était non, quoi non. Des billets d'humeur
Ouais, et c'était horrible. Donc, ce que tu dis sur le vide...
Raconte comment ça s'est passé sur RTL.
Mal.
Non, mais je veux dire, qui t'a recruté?
Moi, ce qu'il y a bien, c'est que je suis concise. Oh putain, il a tout cassé. Non, c'est rien. Il a rien cassé. Par contre, il y a tout qui coule par terre. On va faire une pause pour nettoyer la flotte.
Mais crée l'événement, François. On sent jamais que François...
François n'avait pas créé l'événement. J'étais un petit peu déçue.
Alors que Juliette était en train de raconter son expérience à elle.
Non, je racontais pas, je disais mal. Comment ça s'est passé? Non, j'avais dit
on a réussi à l'interrompre en faisant une connerie.
Alors, ouais, raconte juste comment. Qui t'a recruté sur RTL et pourquoi on t'a demandé de faire des chroniques?
Honnêtement, j'en ai aucun d'humeur. Souvenir.
Bah, tu sais dans quelle émission tu faisais ça?
Oui, c'était l'émission de Stéphane Bern à 11h. C'est ça? C'est possible?
11h, ouais, c'est 11h, ouais.
Voilà. Oui. Je me souviens pas qui m'a recruté. J'en ai aucun souvenir.
D'accord. Et on te demandait de faire quoi?
Un billet d'humeur.
C'est-à-dire?
Tu choisissais un sujet?
Ouais.
Avec de la blague?
Avec de la blague. Et voilà. Et bon, c'était pas... Enfin, alors là, pour le coup, pour moi, c'était du vide, parce que moi, je sortais de 10 ans non-stop de théâtre à jouer tous les jours la même pièce. Et j'avais arrêté pour ça, parce que j'en avais plein le dos. Tout le monde a entendu l'autre.
On l'a pas entendu.
J'ai eu le C.
Enfin, moi, je m'ennuyais. Voilà. Bon, il y avait un L à la fin. et j'en avais marre de ça. Enfin, je me sentais oppressée et tout ça et tout ça. Donc, je me suis dit, ça va être bien une fois par semaine et tout. Et en fait, ça m'a collé une des angoisses terribles parce que là, pour le coup, moi, mon gros sentiment d'imposture en général dans la vie, dès la chronique numéro 1 est arrivé, c'est-à-dire... Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de tes humeurs, Juliette? Mais vraiment, c'est-à-dire, j'entendais ça en boucle dans ma tête. Donc, ça n'avait pas de sens. Et par chance, j'ai été invitée dans l'émission de Charline et Alex.
Mm-hmm. Le 75 minutes.
Parce qu'en même temps, je jouais au théâtre. Une pièce que j'avais... je m'étais dit, je vais refaire du théâtre. Allons-y. Donc, j'avais refait du théâtre. Et Charline était venue voir la pièce. Et elle m'avait dit... il m'avait programmée. Et j'étais venue. Et Charline m'avait demandé... Et d'accord. C'était en été. Mmh. Et Charline m'avait demandé ce que j'allais faire de mon été quand je serai en vacances.
Ouais.
Tu te souviens ?
Ouais, je me rappelle.
Et je lui ai répondu. Moi, j'ai toujours dit la vérité en interview. C'était un gros problème d'ailleurs. Et donc j'ai dit moi, je vais aller chez ma mère et je vais lire des livres. Et donc tout le monde a ri parce que sans doute parce qu'il trouvait ça minable. Et
non, donc, c'était mignon.
Et donc j'ai dit non, mais malheureusement, c'est la vérité. C'est vraiment ça que je vais faire parce que c'est ça que je fais tout le temps. Je vais chez ma mère et je lis. Et ensuite, Charline m'a rappelé genre des à l'automne, en me disant, mais tu vas vraiment... Enfin, c'est ça vraiment que tu t'aimes plus. Je lui dis, oui, moi, vraiment, ce que j'aime plus que tout dans la vie, c'est lire des livres. Et elle m'a dit, mais ça ne te dirait pas de faire des chroniques littéraires. Et je lui dis, je ne peux pas, parce que moi, je ne suis pas journaliste, et puis je ne suis pas prof de lettres non plus. Elle m'a dit, non, mais...
Justement,
nous, on cherche ces profils-là.
On veut quelqu'un qui lit des livres, pas quelqu'un qui est dans le business du livre d'une manière ou d'une autre. Et donc... Ça comblait, en fait, l'endroit où moi, je me sens toujours une imposture sur pattes. C'est qu'elle ne me demandait pas de faire quelque chose que je savais ne pas être. Donc, j'ai eu assez confiance en moi pour...
Donc, tu n'as pas eu ce vide.
Pour m'y rendre. Et je n'avais pas le vide, puisque je parlais de livres. Et donc, je savais que ce n'était pas moi... Que moi, je n'avais pas d'intérêt, soit, mais qu'en revanche, je sais que les livres, ils en ont de l'intérêt.
Et maintenant que tu dis ça, je me dis, je crois que j'ai compris pourquoi on t'a fait venir pour faire ça, pourquoi je t'ai demandé ça. Je viens de comprendre là, à l'instant, avec ce que tu viens de formuler, parce que j'ai dû me dire, je savais que t'étais drôle et que t'avais un potentiel rigolo, parce que j'avais vu Arrête de pleurer Pénélope quasiment à sa création à Avignon. Et donc, je connaissais Juliette depuis longtemps. Pas personnellement, mais j'avais vu... c'était pas que le mégaphone... je veux dire, je connaissais Juliette, c'était pas que le mégaphone avec Michael Youn. Mm. J'avais vu la pièce à ses débuts et j'avais même vu le numéro 2 au Théâtre Fontaine, parce que j'avais aimé le 1. Et on se connaissait pas et j'ai vu le 2 et tout ça.
Mais t'as fait la démarche ? Non, c'était pour le boulot.
Et alors après, quand on a... Non. Non, je suis allée de mon plein gré. Là, personne m'a poussée.
C'est vrai.
Et donc, je savais que t'étais drôle, je connaissais ta plume. Et là, je me dis, sans doute qu'inconsciemment, je me suis dit, elle a un truc solide, c'est qu'elle aime un truc, encore une fois, orthodoxe, la lecture. Elle lit énormément, elle a un bagage, un truc solide. Et elle a la capacité de faire rire. Et donc, je vais prendre deux choses. Un truc qui est souvent pris au sérieux, parce que franchement, les chroniqueurs littéraires, ils se prennent quand même très très au sérieux.
Eh oui.
Et de prendre un truc qui a, surtout en France, qui est tellement pris au sérieux que la littérature, le masque et la plume, que j'adore, mais bon, on peut se moquer un peu. Et puis là, tu mets quelqu'un qui a une plume un peu marrante, qui a du détachement et qui a de l'humour. Et en fait, je me dis finalement, j'ai sans doute dû associer ça à mon parcours, à un truc au départ très orthodoxe, il y a des règles, faut pas déconner. Ah oui, il y a des règles, faut pas déconner. tu vas voir qu'on peut pas déconner, bien sûr que oui.
Oui, mais c'est ce que je te disais. Et ça retombe sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que être un être humain à peu près accompli, c'est quand tu réussis dans ta vie à faire des ponts et des connexions entre les différentes choses que t'aimes et que ça fasse un ensemble cohérent, au moins à tes yeux, à défaut.
Là, il y a vraiment une mise en abîme parce que justement là, je suis avec des gens que j'aime.
et il y a du pilar.
C'est génial.
Et donc, François, quand tu t'es mis à faire tes fausses pubs, par exemple, est-ce que c'est venu de toi?
Ouais, c'est venu de moi.
Bon, je vais rappeler juste que tu faisais des fausses pubs sur France Inter dans l'émission d'Ali Rebeilly.
Ouais, s'appelle. Ça va pas la tête l'été, qui est devenu après, au bout de deux étés, c'est devenu Grand bien vous fasse en grille de rentrée d'hiver.
D'accord.
Et j'ai continué les fausses pubs la première saison, mais je la faisais de façon quotidienne l'été. Pourquoi tu ris?
Parce que t'arrives pas à être synthétique, mais.
Mais et attends.
On s'en fout du détail précis.
Mais
de toute façon, c'est toi qui fais le montage, non?
Et non, mais tu me demandes de faire. Ah non, mais tu me demandes.
Lui, pense montage déjà.
Mais tu me demandes de savoir si
c'est. Mais là, il y a la précision, on s'en fout, Nanouche.
C'est génial, il y a une inversion des rôles, parce qu'il y en a un qui dit putain, le montage que ça va être. Alors qu'en fait, le réalisateur qui parle et qui fait des incises dans toutes ses phrases, ça va être un montagne à monter, c'est le réalisateur.
Ouais, mais là, moi, je suis pas réalisateur sur ce programme.
Donc.
Non, on a bien vu, sinon tu ferais des réponses plus concises.
Oh putain.
Ouais.
Je vais quitter cette pièce.
Non. Parce que tout le monde, toi à chaque fois, hein, tous les invités.
Attends, non. Non, je vais être concis. Oui, non, bien sûr. Donc.
Et toi, Charlie? Non, vas-y, vas-y, François.
Non, donc, c'est le. Est-ce que la bascule, ben, elle se fait. Elle se fait, en fait, elle se fait avant parce que.
Merci.
C'est un truc que j'avais, bizarrement c'est un accident, c'est que j'ai une coach, ma coach de comédien, qui m'appelle, me demande un truc, et dit j'ai un comédien qui va faire un casting, et il va jouer un truc d'époque, tout ça, il lui faudrait une espèce de bande-son de vieux journaux de pâté, tu vois, eh oui, les actualités, machin. Et comme moi je fais du son, je fais un truc et je fais la voix et je fais tout le vieux présentateur, la vieille pub. Et en fait, ça me donne une idée de faire des trucs un peu désuets. Et comme j'allais faire cette émission l'été, je me suis dit, tiens, je vais essayer deux, trois
mais
trucs.
Mais t'allais faire cette émission en tant que réalisateur.
En tant que réalisateur.
Pas du tout à l'antenne.
Je me dis,
il
y a peut-être une pastille, comme c'est un truc psychologique. Enfin, c'est une émission psycho sur des problèmes psycho-sociaux. Je me suis dit, tiens, si je vendais un produit pour résoudre le problème qui est posé dans l'émission. Un truc absurde, rigolo.
Ouais.
Et en fait, sur 30 secondes, et en fait, je lui ai proposé, et il a dit, ben banco. Et voilà comment ça s'est passé.
Et ils ont vendu la caravane.
Et ils ont vendu la caravane. et puis, comme l'été, il n'y a pas beaucoup de moyens sur les émissions, Ali, il était content parce que c'était rigolo, ça lui a plu, et que ça faisait aussi une séquence dans l'émission en plus.
Mais toi, quand tu étais adolescent ou gamin, tu étais un enfant drôle, tu étais rieur. Quoi ? Pourquoi ?
Non, parce que là, tu remontes loin, je sais pas si je vais être concis, c'est pour ça. Tu remontes très loin.
C'est pas grave, c'est Ramzy qui fait le montage.
Ouais, non, oui, oui.
Vous avez la touche x2 sur votre podcast, n'hésitez pas à ce moment-là, ça va durer 10 minutes.
Lecture x2. Non, j'ai des souvenirs, alors je vais être concis, j'ai des souvenirs de je fais marrer. Tu sais, c'est le truc de caricature de, oui, les humoristes, tu vois, ils ont toujours, là, oui, à l'époque, je faisais rigoler, tout ça. Moi, j'ai des trucs où je me souviens, je refaisais des sketchs de Michel Leeb à la cantine quand j'avais 10 ans, devant tout le monde.
Génial, on a des dos.
Raciste, il est raciste.
Non, je faisais pas. Je faisais. Non.
Ramzy, il est raciste.
Non, François, il est raciste.
Je te le dis, Ramzy, virgule. François est raciste.
Non, il y avait Michel Leeb, il faisait une soirée télé avec des sketchs télévisés. Je sais pas si vous vous souvenez de ces trucs-là.
En noir et blanc TF1.
Non. Et donc, c'était des sketchs et il y avait des. Et donc, je refaisais les sketchs le lendemain. Donc voilà, oui, voilà.
Moi, je faisais Ilikaku.
Oui, j'en étais sûr, ouais. mais donc, en fait...
Oh là là, ouais.
Et toi, tu refaisais
Laurent Gérard? Moi, malheureusement, quand j'étais au cours Florent, au lieu de m'appliquer à faire le cours Florent, j'apprenais par cœur ma VHS d'Ilikaku. Il n'y avait que ça que
non,
je trouvais.
Il y avait une propension quand même, un intérêt en tout cas.
Un goût
pour,
en tout cas, moi, c'est ça c'est pour ça que je posais la question à François. C'est le goût du rire. C'est pas fort... D'où ça vient, enfin, est-ce qu'on l'a depuis toujours ou pas?
Enfin, t'as toujours été fan des Guignols de l'info ou du Bébé de Chaud,
Lequel. Les Guignols, bah déjà le Bébé de Chaud, en fait, j'ai commencé par le Bébé de Chaud, c'est ça qui m'a amené à la politique,
finalement.
Finalement, le Bébé de Chaud est peut-être moins caricatural que la politique française aujourd'hui, tu vois, quand tu réfléchis bien.
Mais moi, je me souviens de quand j'ai rencontré Michael Youn, il me disait que quand il était petit... Il faisait.
C'est le point X
de Juliette. Il me disait qu'il savait par cœur, lui c'était des cassettes, puisque il est de ma génération, des cassettes de Coluche. Et qu'il faisait rire ses parents en faisant ça. Mais on est un certain nombre comme ça, avoir appris par cœur.
Surtout quand tu avais des VHS, enfin tu les regardais 1000 fois, j'imagine, parce que tu n'en avais pas 250.
Oui, mais là, moi, je te parle de cassette audio. Hein.
Ah, cassette audio.
Oui. Ouais,
okay. Ah, non, moi, je me souviens aussi d'une anecdote. La voisine... Non, ça va être court. La voisine de chez mes parents, et vous habitez, voilà, j'étais gamin.
Ça s'appelle comment?
Hein?
T'es méchant.
Ça s'appelle Cécile, que j'adore et que j'embrasse.
Et à nouveau, il se croit sur Skyrock. Il fait des dédicaces.
Et c'est pareil, il y avait un autre truc que j'apprenais, mais c'est les soirées, les sketchs des inconnus aussi. Je connaissais ça par cœur, hein, j'apprenais ça par cœur. Et une fois, la voisine me dit, ah ben, s'il apprenait aussi bien ses leçons que les sketchs des inconnus, il serait machin.
On y
sauf
a tous
que
20 droit,
ans plus tard, 20 ans plus tard, elle vient me voir jouer au théâtre. Et elle m'attend à la sortie. Et je dis, j'ai bien fait d'apprendre des sketchs des inconnus. Hein.
Mais qui s'est mangé. La petite vengeance.
Et
donc, Charline, toi, tu fais ta chronique sur le mat. Tu faisais ta chronique le matin dans le 7-9. Alors, t'en faisais 4 par semaine
ouais.
Ou 5 au début?
Donc, au début, j'en faisais 5.
5 par semaine,
ouais. Après, je suis passée à 4 parce que c'était un peu beaucoup avec l'émission en plus.
Oui, en plus, tu avais l'émission du coup j'annule tout de 17h à 18h. Donc, tu avais deux éléments à faire.
Ouais.
En même temps, comment se passait l'écriture d'une chronique quotidienne?
Tu peux dire mal.
Alors,
dessous dans le vide.
Eh ben, alors.
Je te parle de la chronique du matin.
La chronique quotidienne du matin, j'ai commencé au 5-7.
Tu faisais pas d'émission à l'époque.
Bah, je co-animais le 5-7, donc
Petites heures.
je me levais à 1h30 du matin, j'arrivais à 2h15. Bah, si, j'arrivais à 2h15 à la rédaction. Et on produisait, on coproduisait donc le 5-7 avec Éric Delvaux. Et à la fin de la tranche, j'avais une chronique j'avais écrite la veille à 80% et que je peaufinais la nuit.
C'était à la place de Daniel Morin de maintenant, en fait.
Exactement, ouais. C'était un créneau qui n'existait pas en humour. Ils l'ont ouvert quand j'ai co-animé le 5-7. Et ensuite, ils l'ont laissé. Ils ont laissé ensuite Daniel Morin. Et donc, au départ, j'écris pendant 6 ou 7 mois. J'ai écrit seul. Donc, il y avait 2 heures à préparer et à animer. Mm-hmm. Même si on est épaulé, hein, mais... et puis il y avait une chronique.
Comme tu disais que tu étais très mal épaulée à l'époque.
Non, pas du tout. Pendant six mois, j'ai écrit seule. Et à un moment, je tirais vraiment la langue. C'était fou, quoi.
Et donc, tu cherchais ton sujet. Enfin, j'ai l'impression,
ouais.
Je sais pas comment ça se passe.
Comme aujourd'hui, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que j'essayais de palper.
J'ai l'impression que tu passes plus de temps à chercher ton sujet qu'à écrire ta chronique.
Ouais. Bah oui, parce que comme je suis dans une tranche... comme j'ai toujours ce tropisme un peu de journaliste et qu'on parle d'actualité à 17h, et puis quand j'ai commencé, on est toujours dans ce bain de l'actualité. Donc, si tu prends vraiment. Moi, je me sens pas à l'aise si je prends trop un pas de côté. J'aime bien de raisonner avec. Je trouve que. Je prends mon pied en utilisant les référents tout frais de ce qui vient de se passer, en prenant les choses graves et en prenant du recul dessus, c'est mon truc, quoi. Donc je vais pas faire un sujet sur la mozzarella contre le camembert ou les pantacours contre les doudounes sans manches.
Et on en passe Daniel
Morin. Donc trouver le sujet, parfois ça prend un temps pas possible parce que tu peux trouver plein de sujets formidables dont il faut absolument parler, mais il n'y a aucune blague à faire
par
dessus.
Par exemple, le truc que tu as le plus fait, c'est la chronique de 7h57.
Mm-hmm.
Tu te mets à écrire le soir.
Je cherche le sujet.
Toute la journée
Il faut que j'ai le sujet genre à 14h, sinon je suis en panique.
D'accord.
Et après, je me mets à écrire. Donc l'historique, c'est que pendant 6 mois ou 5-7, j'ai écrit seule. Et puis, le mardi, il y avait Alex Vizorek qui n'avait pas d'endroit où se poser à France Inter pour faire sa chronique. Et donc, je lui disais, viens dans mon bureau. On avait fait le 75 minutes ensemble. Et puis, le 75 minutes l'été, on le faisait ensemble. Et puis, cette année-là, pendant l'année, on était plus ou moins séparés. Moi, lui, il faisait une chronique hebdo et il faisait le 11h. Et moi, j'étais dans le 5-7. Mais on se retrouvait dans le même bureau une fois par semaine. Et un jour, il m'a dit, mais tu peux pas tenir ce rythme, t'es dingue. Je dis, comment tu veux faire? Il fait, tous les humoristes font ça, faut que tu te fasses aider par un co-auteur. Et il n'y a rien de honteux à ça. Vous écrivez à deux et il y a des échanges d'idées.
Tiens, je te file une dizaine de mecs.
Ça reste ton texte et tout. Et j'ai fait un bouche. Alors, faut quand même se rendre compte qu'au bout de 6 mois d'écriture, je me rends compte que, oui, tu peux écrire avec un co-auteur. Et deux, il existe des droits d'auteur. Parce que ça, je ne savais pas non plus.
Oh, mamie.
Ah ouais. Et Alex me dit, mais il y a des droits. Mais t'es folle, ma fille. Et voilà. Et donc, là, j'ai commencé à écrire avec un co-auteur. Et donc, ça m'a soulagée dans cette idée qu'on parlait tout à l'heure de la page blanche. Je me dis, au moins, il y a... un tiers ou une demi ou une page que je vais remodifier, tout ça. Mais il y aura toujours un petit bout de quelque chose auquel me raccrocher. C'est vraiment la rambarde avant de sauter dans le vide. Il y a quelqu'un qui t'aide, quoi.
Toujours le vide. Hein. Vous avez remarqué avec Charline comme ça revient la sémantique du vide.
Ouais, bah, vraiment, bah ouais.
C'est pousser aussi.
Est-ce que c'est pas le lot de ceux qui doivent créer et qui sont à l'antenne ou sur la scène de théâtre, ou tu vois, c'est-à-dire que moi je fais ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive de rêver que j'arrive les mains vides à l'antenne.
Oui, mais tous les
homme l'a fait, Frédéric Becbédé. On a vu le résultat.
Et ça nous a tous collé une angoisse parce que c'est un truc
parce qu'on se voit là
sur le coup de cette chronique de Becbédé.
Tu peux rappeler?
Et ben il est arrivé à l'antenne, il avait une chronique une fois par semaine, c'est ça?
Ouais.
Qui était un billet d'humeur.
Tous les 15 jours, je crois même.
Oui, tous les 15 jours.
Ouais. Et en alternance avec.
Mais des fois, tu sais, trop long, c'est dur quand c'est trop espacé.
C'est une gymnastique.
Bon, peu importe. Et en tout cas, un matin, il est arrivé et très clairement, il n'avait rien écrit du tout. Et moi, je m'en souviens très bien parce que je l'ai entendu en direct et j'avais mal au ventre pour lui. Enfin, alors que je le connais
il
pas.
Il a ouvert le Figaro, il s'est dit, bon, bah voilà, je vais.
Et il s'est passé. Broder, et en fait, ce qui s'est passé de vraiment horrible. C'est que, enfin moi, en tout cas dans mon souvenir, c'est que les gens autour de lui ont plus paniqué que lui.
Ah oui.
Et moi, je me souviens de la voix de Nicolas Demorand qui, tout à coup, était excédé, enfin qui a eu un truc excédé dans la voix. Mmh. Et en fait, rétrospectivement, je me suis posé la question de si personne n'était intervenu.
Ouais.
Est-ce que ça aurait été si nul que ça? Alors, ça aurait été peut-être très étrange. En fait, ce qui a signifié que c'était nul.
Ouais, c'est les autres. Bah, c'est souvent comme ça. Hein. Ouais. En fait, c'était presque un happening. Tu peux très bien. En fait, si je devais le défendre, si j'étais avocate,
tu le fais jamais, ça défendre les humoristes.
Si j'étais avocate, je dirais, il a tenté un happening, mais il est face à des gens qui sont des journalistes purs et durs, des journalistes avec la pression la plus folle. C'est le prime time de la radio, c'est le matin, on leur dit de pas dévier de leur truc. Moi, je sais que quand le matin, je fais ma chronique, mon lancement pour Nicolas Demorand, il doit vraiment être ultra factuel, pesé, millimétré, il faut que ça lui aille. S'il y a le moindre début de mini-blague ou de truc qu'on peut interpréter comme un jugement, il ne le prendra pas. Donc, on a affaire à des gens qui sont vraiment, qui subissent la pression du code journalistique la plus lourde qui soit. Donc, évidemment, si un type arrive et qui tente un happening... Et il tente le truc créatif, mais créatif veut dire on peut se louper en direct, mais ça donne quelque chose. Il est face à des gens qui sont face à la peur du vide, parce qu'on leur a appris encore le vide, d'accord, mais eux, ils ont vraiment là cette grosse peur de quand il faut meubler. On leur apprend pas ça dans les écoles de journalisme, à meubler. S'il se passe un pain à l'antenne et que pendant une minute, il n'y a rien, c'est la panique, en fait.
Alors que toi... Comme tu as François Audouin comme réalisateur, t'as appris à meubler.
Mais moi, je me suis affranchie des codes, donc oui, tout peut exister dans cette minute. Mais si dans ta tête, pendant une minute de blanc à l'antenne, tu dois utiliser des codes, il n'y a aucun code pour ça. Donc, tu es en panique. Donc, en fait, tu laisses le gars en race campagne. Et pour moi, les torts sont partagés. Hein. Il y en avait un qui n'avait pas bossé. Et il s'est dit, quitte à pas avoir bossé, autant en faire quelque chose et montrer que je n'ai pas bossé. Pourquoi pas? Mais comme il n'a pas été aidé là-dedans, parce qu'il est face à des gens en panique avec des codes et des trucs, eh ben ça foire. S'il avait été, je pense qu'il avait été dans notre émission, admettons, Becbédé est chroniqueur dans notre émission. Il arrive, il n'a rien fait. Pour tout vous dire, c'est arrivé une fois avec un chroniqueur dans le 75 minutes. Je ne dirais pas qui, mais un jour, c'est arrivé quelqu'un qui a dit « j'ai pas bossé et tout, je vais y aller ». Eh ben, Alex et moi, on voit comment faire pour soutenir un créateur. Parce qu'on l'est devenu.
Thomas VBDB.
non. C'est André Manoukian, mais on l'embrasse.
et donc, je pense que les torts sont partagés parce que ça aurait pu être un moment fou.
En tout cas, c'était un moment de non-rencontre. T'as vraiment deux
la création et le joug du code.
Oui, mais pour le coup, je vous trouve dur de mettre la... les deux sont un peu responsables. Parce que à partir du moment où tu connais le contenant... Si le contenant, la matinale et les codes qui appartiennent à Demorand et à Salamé, si Becbédé ne se noie, c'est de sa faute. Il connaît lui aussi les codes qui appartiennent
à... Je sais, mais il était pour lui, enfin, moi à l'oreille d'auditrice, Il n'était pas en train de se noyer. Il faisait juste quelque chose qui n'était pas dans les codes
qui ne
de
correspond
son
pas.
Fait.
Bah oui,
justement, est-ce que c'est pas ça qui est marrant ? C'est parce que est-ce que c'est pareil qui est marrant entre le truc qui est le plus travaillé de France avec la télévision qui a des enjeux économiques et tout. Hein, mais bah, tu prends la matinale de France Inter, c'est le plus.
C'est ce que tu fais toi, ce que tu faisais. Ouais, mais lui,
il a poussé le truc.
Quand tu venais en costume face à Nicolas Hulot, face à Ségolène Royal, tout ça. Donc déjà,
mais moi c'était travailler, donc je travaille avec des codes. Oui. C'est des codes quand
ouais,
je quand
tu,
en fait moi je casse
leurs codes à eux parce qu'en fait tu les décontenances
mais
quand
avec
même,
des avec des codes
avec d'autres codes oui.
Avec les codes de l'humour
mais sauf que l'autre il n'y a aucun code
bah, si dans ça lui c'est un littéraire et alors là pour le coup je vois à peu près à quoi ce qu'il avait en tête c'est une référence littéraire ou artistique que de tout à coup
c'était dadaïste
là oui là ouais, où t'as une chier ouais. De mots non mais peu importe. T'as le droit de trouver ça déconnant, que c'est un prétexte, soit, mais t'as un endroit qui est que nourri de mots, d'intentions,
de
règles.
Chaque seconde est réfléchie en équipe. La matinale, c'est chaque seconde est réfléchie dans un comité, écrite, relue. Chaque seconde est incarnée par plein de personnes derrière, en fait.
Et lui, il arrive. Il fait un travail d'art. Et je dis ça, j'y crois moyennement.
Ça reste
hein.
Coincé quand même dans le fond de la
gorge.
Mais tu fais ça quand t'as les compétences, quand t'es capable de rebondir toi-même. Si,
mais
lui, n'était pas capable de
moi,
rebondir.
Ce que alors, moi,
et donc,
ce que
en fait, il
alors,
s'est
je te continue,
tout seul.
Alors, je te continue la suite.
Si ça avait été le roi de l'improvisation,
oui.
Pourquoi pas.
Mais ça n'est pas Boulevard. Oui, évidemment, on a bien compris ce jour-là que c'était ni
Boulevard
ni Boulevard.
Voilà, typiquement, Edouard Baird, quand il vient en tant qu'invité le matin... Il disrupte un peu la matinale parce qu'il répond pas aux questions, il parle aux techniciens, il parle machin, il part en live. Mais il est capable de le faire. Il est capable de tenir le crachoir pendant les 10 minutes.
Oui, c'est vrai.
Bah, il a cru.
Mais après, il y a eu une autre chose qui s'est passée à l'antenne. C'est vrai. Mais il y a une autre chose, moi, que j'ai ressentie de manière ultra douloureuse à ce moment-là, c'est que donc Nicolas Demorand l'a coupé sèchement en lui disant, franchement... Enfin, vous êtes un branleur,
c'est
en gros.
C'est
à
dire fait.
Mais parce que c'est aussi le ressenti, et c'est peut-être aussi le ressenti des auditeurs. Lui,
fait.
En tout cas, c'était son ressenti.
Après, exactement. Comme BD, il ne bossait pas des masses avant. Hein. On a bien senti qu'il faisait la même chronique toutes les semaines. Donc, à un moment, je comprends.
Oui, mais il a pris
de Morant soit excédé,
voilà.
Je comprends.
Mais bien sûr, mais moi, je ne dis pas le contraire. Mais ce qui s'est passé derrière, c'est que justement, Bec BD, qui est bien plus friable que quelqu'un comme Baer ou Poulvord, il s'est littéralement effondré. Réécoutez-le, vous entendrez, il y a un moment de souffrance, enfin de type qui tout à coup, de petit garçon qui est vraiment désolé de enfin il y a en quelques secondes il se joue un truc hallucinant entre les deux. Il y a trois répliques comme ça qui sont folles en fait. Je sais pas pourquoi on en est arrivé
ouais,
là.
Oui,
on mais
est sur une
c'est,
discussion
c'est
double vasque. Ouais,
c'est très alors attends, double vasque, je vais mettre une petite vasque quand même.
C'est intéressant, un podcast sur la création.
Mais tu vois ce que tu dis.
Ouais, c'est intéressant.
Mais le truc, c'est qu'on parle
c'est
que d'une seule chronique. On parle que d'une seule chronique la dernière. Et que le truc, c'est que ça faisait déjà plusieurs fois où en fait, ils mettaient cette même musique parce que c'était son concept du
spa
auditif.
Ouais.
Et
oui,
en fait,
arnaque,
tu voyais bien l'arnaque que c'était. On met de la musique comme ça, on ne peut pas parler. Il y a quand même quelque chose à l'antenne parce que tu vois, cette peur du vide, elle existe quand même. Il n'y avait pas de blanc puisque tu avais une musique en permanence et qui pouvait dire. Ce qu'il voulait, parce que je pense qu'Edouard Baird, il a un peu la même technique, sauf que lui, il a un flow, mais il sait intérieurement, peut-être, j'imagine, que cette musique le sécurise pour pouvoir se libérer et avoir son flow. Mais Bec BD, il n'a pas ce talent-là. Et donc, c'était déjà depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, le spa auditif, c'est un peu l'arnaque, et ça a fini en eau de boudin.
Mais la différence entre Edouard Baird et Bec BD, c'est que Bec BD, c'est un homme de l'écrit, et que Edouard Baird, c'est un homme de la radio. Enfin, et donc, il y en a un qui est très à l'aise, qui est dans ses codes, dans des codes qu'il maîtrise, et que. Peut-être sont responsables les gens qui l'ont mis à l'antenne.
Allez.
Je pose ça là, chacun fait bien comme il veut.
C'était beau et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter.
Ah bon ?
Eh oui, déjà. Je pense qu'on en refera un.
On va en faire une avec Charlie.
À chaque fois on dit ça, on a invité, on fait le début de carrière et après, il faut qu'on
arrête. Oui, mais une heure, ça va.
Bon, on va attendre avant de faire ma fin de carrière, si vous voulez bien.
Merci.
Quand je pense qu'on n'est pas passé à ça d'un scoop.
Ouais, mais on va peut-être la voir parce que.
Elle va revenir.
Oh, bah. Elle va nous donner.
Vous m'auriez mis 2-3 bouteilles de blanc.
Allez, la prochaine fois, il y aura beaucoup plus d'alcool.
Merci Juliette, merci François.
Merci
Charline, merci beaucoup.
Merci Charline.
Alors, on va quand même faire un point sur ton actualité.
Ah ouais, volontiers. C'est un peu la vôtre, j'ai l'impression.
C'est pas totalement faux. Donc c'est encore nous.
Alors, c'est encore nous. C'est comme ça. Du lundi au vendredi de 17h à 18h sur France Inter.
Disponible en podcast aussi.
Ouais, en podcast, balade de diffusion. Les chroniques sont découpées en vidéo. On a une page Facebook aussi. C'est encore nous. Et puis chacun a une actualité. Hein. Il y a les romans photos de François Audouin sur Instagram. voilà. Et le jeudi matin, dans la matinale à 8h55-57.
Elle va tout casser sur France Inter.
Sur France Inter toujours, ouais. Okay. Au Van Citoyen, petit essai sur l'humour politique paru aux éditions de Noël.
Oui.
Voilà. Et pour l'instant, bon, c'est déjà pas mal.
En signature dans toute la France, venez là. Voilà.
Oui, c'est ça. Et après, il y aura des projets, mais je ne dévoile pas puisque je suis stratège.
Oh là là là.
Mais vous verrez au mois de mai, ça arrive.
Merci à tous et à tous et à bientôt.
Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.